Pour nous écouter dans le monde entier, c'est facile avec Internet. Vous tapez www.radiookapi.net. Radio Okapi, quand vous voulez, où vous voulez.
Voilà, nous parlons de la malaria ou le paludisme chez les enfants. Quels sont les signes? Comment la soigner? Vous savez, la malaria est l'une des causes des décès chez les enfants de moins de 5 ans. Bien souvent par ignorance ou négligence, les parents amènent leurs enfants à l'hôpital lorsque c'est déjà peut-être trop tard. Et pourtant, lorsque la prise en charge est correcte, il n'y a pas assez de dangers. On en parle avec Dr Luc Kamanga, pédiatre à la clinique Ngalima. Encore une fois, bonjour docteur.
Bonjour Marcel.
Non, c'est jeudi. Ah, ouais, c'est jeudi.
Oui.
Alors docteur, la malaria chez les enfants, on dit souvent que la malaria tue plus que même les sida.
Ah oui, cela est vrai, hein. La malaria tue plus que les sida, pratiquement tous les jours, et particulièrement chez les enfants de 0 à 5 ans, qui ont une prémunition qui est encore en formation, ce qui fait qu'ils sont très vulnérables et ils meurent. Et imaginez-vous, toutes les 30 secondes, il y a une fille humaine de cette tranche d'âge qui périt à cause
de
la malaria.
Pays, dans notre pays.
À travers le monde, et particulièrement dans notre pays, et les pays d'Afrique qui nous avoisinent, où la malaria se vit de façon endémique.
Mmh. Voilà. Voilà. Et comment, on dit souvent que certains parents, par négligence, ils amènent leurs enfants en retard à l'hôpital. Mais pour un enfant, dès qu'il y a quelques signes de malaise ou l'enfant ne se porte, n'est pas comme d'habitude, il faut directement l'amener à l'hôpital.
Oui, ça c'est le conseil d'or, hein, pour les enfants ou les parents qui ont des enfants à la maison. Étant donné qu'il y a beaucoup de maladies, il y a également beaucoup de signes, pour retrouver tel signe ou tel autre signe qui s'accouple à telle autre maladie, il faut en connaître la physiopathologie, la symptomatologie.
Oui.
Donc, tout signe péjoratif qui se développerait chez un enfant doit amener les parents à le conduire chez le médecin, qui pourra lui faire le distinguo entre telle ou telle autre maladie. Et particulièrement la malaria, qui est une des maladies qui compte aussi beaucoup de signes. Et pas seulement la fièvre, pas seulement les maux de tête, parce que c'est ça qui est plus connu, ou les courbatures, mais il y a bien d'autres signes qui peuvent révéler une malaria, surtout chez des enfants. Vous savez que c'est une tranche d'âge qui a beaucoup de particularités, et ce qui fait qu'au moindre signe péjoratif, que ce soit un malaise, que ce soit une courbature, une fatigabilité, un enfant qui ne joue pas, qui ne mange pas, tout ça doit faire évoquer notamment une malaria, et donc conduire les parents à amener cet enfant à l'hôpital.
Et docteur, généralement chez les enfants, c'est très difficile de savoir ce qu'ils de comprendre, par exemple, ce qu'ils ressentent, parce que les enfants ne parlent pas, ils ne savent pas expliquer qu'est-ce qui leur arrive.
Bah oui, c'est pour cela
tous
que
les tout petits.
Bah oui, bien
là.
Sûr, c'est pour ça que en pédiatrie, la relation est triangulaire. Donc il y a le médecin, les parents et les enfants. Donc les parents parlent pour leur enfant. Et le médecin, sur base de ses connaissances et des signes qu'il retrouve sur l'enfant, arrive à dégager un diagnostic et donc prendre en charge correctement cet enfant.
Et chez les bébés, par exemple, un bébé de 3 mois, comment la maman peut reconnaître, est-ce qu'il y a des signes pour reconnaître la malaria?
Oui, comme je disais tout à l'heure, bon, un enfant qui développe la fièvre, d'abord, dans nos milieux ici, la première des choses à laquelle on doit penser, c'est que c'est un paludisme, donc la malaria. Mais bien sûr, pour les enfants de 3 mois, le médecin sont avisés. Ils savent que, bon, à cet âge-là, il y a probabilité de faire la malaria, mais un peu moins que chez les enfants plus grands. Et donc, au moindre signe, il faut amener cet enfant chez le médecin. Il va développer tout ce qu'il connaît là-dessus et déterminer s'il s'agit d'une malaria ou d'une autre infection, parce que ça peut être le cas. Voilà. Donc chez l'enfant de 3 mois qui ne parle pas, tout ce qui est négatif, un enfant qui refuse de téter, un enfant qui ne se met plus normalement, un enfant qui développe la diarrhée par exemple, qui se met à vomir, ou qui fait tout simplement de la fièvre.
Ou qui pleure à tout moment.
Ou qui pleure à tout moment, ça doit faire évoquer la possibilité d'une malaria et donc conduire les parents à amener cet enfant chez le pédiatre.
Et souvent, on parle de malaria 1+, 2+, 3+, je ne sais pas si ça va à 10+.
Bon, qu'est-ce que ça va jusqu'à 4+.
Jusqu'à 4+.
Bon, ça signifie tout simplement la densité parasitaire. Ouais. C'est-à-dire que le nombre de germes de malaria qu'on retrouve sur une lame, sur les champs, examinés sur une lame au microscope, vous détermine s'il s'agit d'une croix, deux croix, trois croix ou quatre croix. Donc c'est en fonction du nombre d'éléments retrouvés sur la lame, par exemple.
Oui, et le plus fort ou le plus résistant ou dangereux, c'est lequel, hein? C'est le premier, deux, trois ou le...
Ah, il faut comprendre dans ce domaine que, bon, que ce soit un plus, comme vous le dites, deux plus, trois plus ou quatre plus, toute la panoplie de ces parasitémies garde un certain potentiel de gravité. Ça veut dire qu'un malade qui a juste un plus peut faire un paludisme grave, alors que celui qui a deux plus n'est pas dans une situation de gravité. Donc tout est fonction d'abord de l'individu, de l'enfant sur lequel le germe est en train de se développer, de son état immunitaire, de son état de prémunition par rapport à la malaria. Et bon, voilà. Donc ça dépend de ça, ça peut évoluer rapidement vers un paludisme grave, alors que ce n'est qu'un plus, tandis que celui qui a 4 plus ne développera pas nécessairement une malaria, la forme grave. Donc ça n'a rien à voir avec...
Et souvent, certains disent que le germe 1 plus est souvent résistant, hein, même à certains produits.
Bon, c'est une notion qui est répandue, mais il faut définir la résistance. D'abord, c'est quoi résistance? Ça signifie que c'est un germe qui a été identifié et qui a été traité correctement et qui n'a pas répondu au traitement avancé. À ce moment-là, on dira qu'il y a une résistance. Mais pour peu que on fasse une goutte épaisse aujourd'hui et qu'on trouve qu'il y a trop faux une croix et qu'on prenne des antipalus, par exemple, un jour ou deux jours, et puis le reste, on laisse tomber, on revient plus tard, on fait encore, on trouve encore un plus, on dit qu'il y a résistance. Non, il faut d'abord que le malade soit soigné correctement, selon les normes requises, et c'est seulement à la fin, si le traitement n'arrive pas à bout de cette infestation, alors on dirait qu'il y a une résistance. Voilà.
Et on parle aussi d'une autre forme de malaria qui peut évoluer jusqu'au niveau du cerveau.
Ah oui, ça c'est une des formes de palud grave, de paludisme grave, ce que nous appelons communément malaria grave forme neurologique, ou le neuropaludisme, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une atteinte du cerveau qui fait qu'il y a des perturbations du fonctionnement de celui-ci, et donc une souffrance qui peut amener le malade dans un état de coma, notamment, ou développer des convulsions. C'est ce que nous appelons le paludisme grave forme neurologique.
Et comment le germe évolue jusqu'à atteindre le cerveau? Ça arrive à quel moment? Si la malaria n'est pas bien soignée, ça peut arriver plus tard?
Ah oui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tout est fonction de l'individu, de son état de prémunition. Alors, les individus qui sont plus susceptibles à développer sans aller sont des malades, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 0 à 5 ans, et surtout à partir de 6 mois jusqu'à 5 ans, dont l'état de prémunition est en formation. Ça veut dire la création des anticorps pour lutter contre le paludisme ne sont pas encore totalement au point. Ce qui fait qu'ils sont vulnérables. Alors ces enfants, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'ils sont atteints de paludisme, il y a danger que cela arrive au niveau du cerveau, parce que dans la physiopathologie même du paludisme, il y a des phénomènes qui se créent, hein, notamment la cytoadhérence et la création par les macrophages des cytokines, qui sont en fait des médiateurs chimiques qui sont très nocifs pour l'organisme. Ce sont ces deux-là qui sont à la base des perturbations qui vont aller jusque notamment à boucher les vaisseaux au niveau du cerveau, donc empêcher le flux sanguin normal à ce niveau-là, ce qui fait qu'il y aura une souffrance en aval. Et la souffrance va s'accompagner de bien d'autres phénomènes neurologiques, notamment la production d'acide lactique, qui vont aggraver la souffrance cérébrale et donc plonger cet individu dans cet état de coma, voire même de décès.
Vous êtes parent, vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas, écrivez-nous à service@radiocapi.net.
Radio Okapi, Okapi.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94 et envoyez vos SMS au 081 070 20 50 ou bien écrivez-nous à action@radiookapi.net.
Docteur, vous êtes suivi même à l'ICACI. Madame Pamela, d'ailleurs, vient de nous appeler depuis l'ICACI, elle veut intervenir. Madame Pamela, bonjour.
Bonjour.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation est celle-ci. Je voulais demander au docteur, parce que j'ai vu ici à l'ICACI, beaucoup de gens prennent les camotiens. Mais il y a des effets, le camotien qu'on appelle camotien. Mais il y a beaucoup d'effets. Maintenant, je demande au docteur, est-ce que nous pouvons utiliser ça? Parce que j'ai vu un enfant qui avait piqué même une crise parce qu'il avait pris les camotiens. Il a fait aussi de rechute de tension. Il a fait aussi de rechute de tension. Je voulais demander aussi au docteur, est-ce que le camotien sera toujours utilisé sur le marché? Et puis, je voulais demander aussi au docteur qu'il nous explique un peu comment est-ce que nous pouvons utiliser, quels sont les médicaments que nous pouvons commencer à boire qui n'a pas d'effet, parce que nous avons constaté beaucoup de médicaments, même la quinine ici, nous utilisons, nous avons beaucoup de fatigue, nous avons beaucoup d'effets. Maintenant, au docteur, quels sont les produits que nous devons associer avec ces médicaments pour que nous ne sentions pas beaucoup d'effets? Parce que les enfants et les grandes personnes ne prennent plus ces médicaments à cause des effets. Vous pouvez leur donner même des cures, ils n'arrivent pas à prendre ça à cause de ces effets-là. Parce qu'il y a beaucoup d'effets que nous prenons, qui nous font ça, nous n'arrivons pas à terminer la cure.
Voilà, merci. Là,
qu'est-ce que le docteur peut nous dire, qu'est-ce que nous pouvons faire?
Merci Madame Pamela, Docteur Luc.
Oui, merci Madame pour la question pertinente. Oui, il est un fait que le camoquin ou comme traitement antipaludique a été utilisé pendant longtemps avec ses effets connus. Mais actuellement, je vais d'emblée vous dire que la politique nationale de lutte contre le paludisme est très claire là-dessus. Il n'est plus question actuellement d'utiliser le camoquin seul pour traiter la malaria. Eu égard aux effets, eu égard également à la résistance qui a été développée et démontrée par l'utilisation unique d'un seul antipaludique. Actuellement, il faut nécessairement utiliser une bithérapie. Ça, c'est la politique nationale qui est d'ailleurs internationale actuellement. Donc, le traitement du paludisme se fait avec les dérivés d'artémisinine actuellement qu'on peut associer à la camoquine selon la politique nationale, mais il y a bien d'autres composés qu'on peut associer aux dérivés d'artémisinine. Cela permet en fait de pérenniser ou si vous voulez de rallonger le plus longtemps possible l'utilisation de cette nouvelle molécule, notamment l'artémisinine et ses dérivés, qui pourraient être utilisés le plus longtemps possible. Donc l'utilisation de camoquine seule, chloroquine seule ou la sulfadoxine seule, c'est contre-indiqué, c'est actuellement prohibé.
Donc, il faut
selon
associer,
la politique, il faut nécessairement associer. Il y a des médicaments qui sont déjà élaborés, qui contiennent en leur sein les deux associations dans des proportions tout à fait bien étudiées, qui permettent non seulement de soigner efficacement le paludisme, mais aussi de minimiser les effets secondaires qui sont connus pour tous les médicaments que nous avons utilisés avant. Et pour enchaîner sur la deuxième question, actuellement, madame, nous distinguons deux types de paludisme. Il y a le paludisme simple et le paludisme grave. Le distinguo doit être fait par le médecin. Lorsqu'il s'agit d'un paludisme simple, la politique nationale est très claire, encore une fois, c'est les dérivés d'artémisinine associés à la camoquine qu'il faut utiliser en première intention. Et si nous virons dans le paludisme grave, ça veut dire que sur l'enfant, à cause du paludisme, il y a des signes de gravité qui se manifestent, du genre convulsion, du genre coma, un enfant qui devient très fatigué ou qui se met à vomir à tout moment, un enfant qui devient anémique, qui développe des urines Coca-Cola, donc une hémoglobinurie, ça ce sont des signes qui vous évoquent la possibilité d'un paludisme grave. À ce moment-là, vous êtes obligé en première intention pour les paludismes graves d'aller à la quinine et la quinine en perfusion. C'est ça la politique nationale actuellement. Et cette quinine en perfusion, il y a des normes. On ne peut pas la donner n'importe quoi, comme n'importe comment, comment on va la citer. Je suis allé pour une perfusion de quinine, on m'a fait une séance, et puis on m'a dit l'autre séance, c'est demain. Ça ne se fait pas comme ça, il y a des normes. Pour la quinine, le malade qui doit être mis sous quinine en perfusion, c'est un malade qui accuse des signes de gravité, et on doit le traiter avec les doses requises. Pour la quinine base, c'est 8000 grammes kilo qu'il faut donner, 3 fois, sur 24 heures. Mm-hmm. Et pour la quinine globale, donc sulfate, c'est 10 000 grammes kilo qu'il faut donner 3 fois par jour.
Donc il ne faut pas qu'il y ait interruption.
Il ne faut pas qu'il y ait interruption. Et normalement, le traitement doit se poursuivre jusqu'au 7e jour. Et bien sûr, à partir du moment où le malade est capable de prendre le médicament par la bouche, on préfère lui donner par cette voie-là. Voilà, donc ça c'est pour le paludisme grave. Mais pour le paludisme simple, et c'est comme j'ai dit là, les dérivés d'artémisinine associés à la camoquine, actuellement c'est la politique nationale dans notre pays.
Voilà, Mouinson nous appelle depuis Isiro, dans la province orientale. Bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute. Oh,
je voudrais poser une question à votre invité là-bas.
Oui.
Au moment où je suis un peu éloigné d'un centre de santé, quels sont... S'il peut me donner moi quelques comprimés ou bien quelques médicaments que je peux constituer dans ma petite pharmacie pour que si la fasse traiter des paludismes, mais je puisse soigner ça pour la première nécessité, non. Comme les soins des premiers soins.
Oui. Merci Vincent, docteur.
Oui, cher compatriote, vous êtes éloigné d'un centre de santé, vous devez constituer une pharmacie à la maison. Bon, d'abord, je voudrais vous demandez de consulter votre médecin. S'il est distant, il faut aller le voir. Lui pourra vous déterminer, selon la contrée où vous êtes, quelles sont les possibilités pathologiques les plus fréquentes qu'on peut rencontrer et que vous pouvez garder en pharmacie. Il n'est pas très conseillé d'avoir une pharmacie bien pleine à la maison dès lors qu'on n'est pas très professionnel dans ce domaine-là, parce que les médicaments, c'est également un danger. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au paludisme, vous êtes éloigné du centre de santé, il faut aller là où vous pouvez acheter les dérivés d'artémisinine associés à la camoquine. Et il y a plusieurs formes, je ne voudrais pas ici faire la publicité des firmes. Donc, question de se renseigner chez votre pharmacien, les dérivés d'artémisinine associés à la camoquine qui sont vendus. Il y a également les dérivés d'artémisinine associés à la sulfadoxine, qui sont encore d'actualité, ou encore à la lumefantrine, même si à ce niveau il y a pas mal de controverses. Ça c'est pour le paludisme grave, mais pour le paludisme simple, mais pour le paludisme grave, comme vous comprenez, ça c'est quelque chose qui doit être pris en charge dans une formation médicale avec le personnel approprié. Donc je ne vous conseille pas d'avoir des perfusions à la maison, des quinines ou je ne sais pas quoi.
Mais si il remarque que l'enfant est malade, le centre de santé est un peu éloigné, est-ce qu'il peut donner peut-être le paracétamol?
Il peut donner le paracétamol pour baisser la fièvre. Uh-huh. Il doit s'assurer que cet enfant peut boire, donc lui faire boire suffisamment et lui donner des boissons sucrées, parce que la malaria elle-même elle est hypoglycémiante, et pas seulement du fait du parasite lui-même, mais aussi du fait que ces enfants qui sont atteints de malaria, généralement ils ne mangent pas, ils tombent facilement en hypoglycémie. Donc il faut qu'il assure que l'enfant peut boire suffisamment, qu'il lui donne
l'eau sucrée.
De boissons sucrées, de préférence, de l'eau notamment. Si c'est un enfant qui est encore sain, qu'il faut qu'il continue à prendre régulièrement son sein, il faut qu'il baisse la fièvre. Si jamais il faisait de la fièvre, et les premières mesures pour baisser la fièvre, c'est un bain tiède qu'on lui conseille de faire à cet enfant. Et s'il a du paracétamol, il pourrait également le donner, mais de préférence le paracétamol en suppositoire. Parce que là, au moins, il y a des indications selon les tranches d'âge et qu'on sort. C'est plus facile à donner à ce moment-là.
Voilà,
avant de courir
au centre de santé.
Oui.
Nous avons deux auditeurs en ligne, Eric depuis Kinshasa et Mme Rosie de Goma. Eric, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Je suis M. Eric Mouri, je vous appelle de Kinshasa.
Oui.
Je voudrais poser la question par rapport au propos du médecin.
Oui.
Il a dit que fréquemment, ce sont les enfants d'âge, de la tranche d'âge de 6 mois à 5 ans qui sont beaucoup plus la malaria. C'est juste pour savoir quelle serait cette justification. Pourquoi pas les enfants de moins de 6 mois que seulement les enfants de la tranche d'âge de 6 mois à 5 ans.
Merci Eric.
Merci Eric.
Docteur, avant de répondre, on va accueillir toutes les questions et vous allez répondre une fois pour toutes. Madame Rosy, depuis Goma, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
C'est Moussa Kisangani.
Ah, Moussa Kisangani. Bon, on prend Moussa avant de retrouver Madame Rosy. Moussa, oui, allez-y.
Ok, ma question est de savoir, quand nous voyons les affaires avec le palis, il y a souvent les affaires qui se présentent avec la diarrhée. Alors, je voudrais connaître comment on peut expliquer ce phénomène-là.
Merci pour la question. Madame Rosy, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, jeudi, et bonjour à...
Docteur Luc. Jeudi,
là, oui. Oui.
Madame, vous avez la parole.
Ok, merci. Mm-hmm. Je voulais effectivement poser une question par rapport à ce sujet qui, je trouve, vraiment assez intéressant pour moi.
Mm-hmm.
En fait, j'ai remarqué que dans notre ville de Goma, ici, depuis un certain temps, la malaria, je ne comprends pas pourquoi et souvent, très souvent, on se rend dans les centres, dans les séances de consultation prénatale, on donne aux femmes généralement les cures de malaria.
Oui.
Mais malgré ça, le bébé quand il naît avec la malaria, on ne sait pas. Disons, j'aurais bien voulu savoir quel peut bien en être la cause. Des bébés, un nouveau-né qui naît avec la malaria pendant que la maman, même les deux derniers mois avant la délivrance, a pris une cure de malaria en bonne et due forme.
Mm-hmm.
Merci, c'est ça ma question.
Merci beaucoup.
Oui, merci.
Docteur, vous avez la parole.
La première concerne Eric.
Il
demande pourquoi seulement entre 6 mois et 5 ans
mm-hmm.
et pas avant. Je voudrais donner une précision ici. Il est possible qu'un enfant avant 6 mois puisse faire la malaria et nous avons des cas en clinique. Mais c'est moins fréquent que les enfants à partir de 6 mois jusqu'à l'âge de 5 ans. Pourquoi ? À la naissance, l'enfant naît avec un bagage immunitaire issu de sa mère, notamment les anticorps, mais il y a aussi la présence d'hémoglobine F. Ce phénomène empêche le développement plus rapide d'un paludisme chez cet enfant-là. Donc il y a déjà, sur le plan immunitaire, une protection qui fait que ces enfants, avant 6 mois, feront moins de paludisme. Mais il y a des cas. Nous les rencontrons. Pourquoi à partir de 6 mois ? Alors, à partir de 6 mois, le bagage immunitaire acquis de la mère, ainsi que son hémoglobine F, se sont effrités. Ce qui fait qu'à partir de ce moment, l'enfant doit pouvoir développer sa propre immunité, donc la prémunition comme on l'appelle. Ça veut dire qu'il doit se faire piquer par les moustiques pour développer cette immunité.
Mm-hmm.
Et cela va, dans notre zone d'endémicité permanente ici, va comme ça jusqu'à l'âge de 5 ans. À partir de 5 ans, on estime que l'individu aura été suffisamment piqué et que son organisme aura développé suffisamment d'anticorps. Et donc, à ce moment-là, il devient moins vulnérable. Mais cela n'exclut pas le fait que même après 5 ans, cet enfant puisse également faire un paludisme, et même un paludisme grave. C'est tout simplement ça, la distinction. Donc, c'est tout à fait relativisé.
Mmh.
Nous parlons ici en termes de probabilité, en fonction des connaissances qui sont à notre disposition.
Alors, Moussa de Kisangani, pourquoi la malaria est accompagnée de la diarrhée?
Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, Monsieur Moussa, la malaria, c'est une des pathologies où vous pouvez rencontrer toutes les signes de maladie, pratiquement. Et c'est pour ça que la diarrhée, notamment, est citée parmi les signes pouvant faire évoquer un paludisme. J'ai expliqué tout à l'heure la physiopathologie du paludisme. Et à partir du moment où le malade développe un signe comme la diarrhée, et si c'est une diarrhée importante, accompagnée peut-être de vomissements, nous pourrons dire que c'est aussi une malaria en forme digestive. Alors qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est toujours au niveau des jeux des médiateurs chimiques, notamment les cytokines qui sont éjectés par les macrophages, ainsi que les autres éléments de la cytoadhérence dont je parlais tout à l'heure, le phénomène se fasse exactement comme ça se passe dans les autres organes, notamment au niveau du cerveau, au niveau du poumon, au niveau du tube digestif. Au niveau du tube digestif, la manifestation, ça sera cette diarrhée.
Donc la diarrhée peut être parmi les signes qui
parmi les signes,
les signes de la malaria.
Oui, oui, donc perturbation de fonctionnement à ce niveau-là qui va se déboucher sur une diarrhée ou des vomissements. Donc c'est une des formes.
Alors rapidement, docteur, on va terminer, on va conclure. Madame Rosy vous a posé la question, pourquoi les bébés naissent avec la malaria alors que la maman a suivi un traitement quelques mois avant la délivrance?
Oui, le traitement préventif intermittent qui est requis chez les femmes enceintes, ça, c'est la règle, elle doit être suivie. Donc, elle doit recevoir au moins deux doses de médicaments. Donc ici, on utilise la SP qui doit être donnée à la femme enceinte pendant la grossesse. Si elle n'est pas séropositive, mais si elle est séropositive, on va jusqu'à 3 fois de donner. Pourquoi les enfants naissent avec la malaria? Alors, nous entrons dans le domaine de ce que nous appelons le paludisme congénital. Alors, dans le paludisme congénital, l'enfant naît, il développe des signes qui font évoquer une malaria. Mais attention, chez les nouveau-nés, ce qui est plus fréquent, c'est une infection néonatale, qui peut être confondue avec la malaria. Donc, il ne faut pas comprendre toute fièvre ou tout changement de coloration de la peau de l'enfant ou encore un refus de tétée ou tous ces signes-là directement se verser vers une malaria. Ou un congénital. Il est possible que dans les examens qu'on va faire à la recherche notamment d'une étiologie par rapport à ces signes péjoratifs qu'on a vus, qu'on trouve une goutte épaisse qui est positive. Ça arrive également.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Rapidement, dernière question. Certains disent qu'il y a certaines plantes qui peuvent soigner la malaria. Par exemple, certains prennent les makassou, les Congo Bololo, un breuvage, soit l'ngadia de Aïssam, que ça peut traiter la malaria.
Je n'ai pas une étude scientifique prouvant cela. Donc, ça, c'est un constat empirique. Moi, je suis formé comme médecin moderne.
Vous n'avez aucun avis à mettre là-dessus. Docteur Luc Amanga, pédiatre à la clinique Galema, je vous remercie.
Merci.